Ça marche. Bien, on va laisser une minute aux gens. Il y a encore quelques places devant, n'hésitez pas, ceux qui sont tout derrière. Voilà, n'hésitez pas. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons commencer pour cette première grande conférence de la Biennale. Et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir David Le Breton. Merci David pour votre présence. Alors, beaucoup d'entre vous le connaissent, puisque comme nous en discutions à l'instant, bien évidemment, les travaux de David Le Breton, notamment sur le corps, hein, mais pas que, sont très fréquemment cités dans le domaine de l'éducation et de la formation. Mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vais rappeler en deux mots peut-être qui vous êtes et votre parcours. Donc vous êtes professeur émérite aujourd'hui de sociologie et d'anthropologie, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Et vos travaux, David Le Breton, portent entre autres sur les représentations du corps et l'analyse notamment des conduites et des comportements à risque. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine de livres, alors il n'est bien évidemment pas possible de tous les citer aujourd'hui, mais c'est des livres qui ont rencontré un vif succès dans le monde académique et également dans le milieu des sciences de l'éducation et de la formation, comme vous le savez. Pour ne citer que quelques titres en relation avec le terme de la Biennale. Alors, bien sûr, il est impossible de ne pas parler de votre ouvrage « Anthropologie du corps et modernité », dont la première édition est parue au PUF en 98 et qui a été maintes fois réédité et plusieurs fois, qui est disponible, bien évidemment, à l'étage au-dessus, au Salon des libraires, mais également « Sociologie du risque » en 2017, Expérience de la douleur entre destruction pardon, et reconnaissance en 2010. Marché, éloge des chemins et de la lenteur. Alors c'est toujours un plaisir aussi de parcourir vos titres, on vous reconnaît là. Peut-être un peu un côté Modiano d'ailleurs je dirais dans vos titres. On vous reconnaît rien qu'à vos titres. Et puis Anthropologie des émotions, paru en 2021. Alors aujourd'hui, je vais notamment montrer un de vos très récents ouvrages, La fin de la conversation, la parole dans une société spectrale, puisque ça va être notamment le cœur de votre intervention aujourd'hui, et une intervention qui est d'une importance centrale lorsque l'on s'intéresse à la question de l'expérience, puisque vous, finalement, vous allez nous parler des processus qui viennent inhiber l'expérience. Et ça, c'est fondamental en général, et c'est bien évidemment fondamental pour la recherche et les pratiques dans le monde de l'éducation et de la formation. C'est absolument décisif. Voilà. Donc, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de vous accueillir et de vous laisser la parole. Alors, comme d'habitude, pour une conférence de 45 minutes environ, et puis comme c'est la tradition dans le cadre de cette biennale, nous aurons bien évidemment un moment d'échange avec vous, de questions, d'échanges et de réponses avec la salle. Voilà. Donc, bienvenue encore une fois à vous, David Le Breton, et merci pour votre présence. Je vous laisse la parole.
Merci infiniment, Joris. Merci à Martine, merci à Jean-Marie dans son au-delà, et merci à toute l'équipe du colloque. Merci à toutes et à tous de m'écouter ce matin. C'est vrai que mon exposé sera une sorte de pas de côté, d'une certaine manière, puisque je vais faire un rappel des ambivalences, des ambiguïtés, et dans un contexte évidemment où nos responsabilités d'éducateurs, d'enseignants ou de parents sont énormément accrues du fait de l'atrophie de l'expérience qui est provoquée aujourd'hui par la colonisation planétaire du smartphone qui altère profondément le rapport au monde, non seulement de nos jeunes d'ailleurs, mais de beaucoup de gens. Que devient d'ailleurs notre humanisme dans ce contexte-là? Ce sont des questions qui me hantent depuis un bon moment. On peut dire que, en effet, le smartphone est vraiment une sorte d'inhibiteur de l'expérience. Particulièrement, évidemment, dans le domaine de la transmission, de l'éducation, du rapport également au monde. Il est une sorte de narcotique, en quelque sorte, une sorte de narcotique qui dissout totalement l'épaisseur sensible du monde et de l'autre, un exemple que j'ai eu hier en dialoguant avec une collègue italienne, une jeune collègue qui me disait, ma petite fille m'a dit, maman, je voudrais vite devenir grande. La mère lui dit, mais pourquoi tu veux devenir grande? Et la petite lui répond, parce que comme ça, j'aurai un smartphone. Voilà, vous voyez où nous en sommes rendus aujourd'hui. Mais en même temps, quand la mère lui a dit, mais tu sais, t'as pas besoin d'un smartphone pour être heureuse, tu peux faire des tas de choses. Et la petite lui a répondu, mais la mère disant, moi dans mon enfance, ça n'existait pas, etc. Et la petite lui disant, mais comment vous faisiez pour vous rencontrer? C'était impossible, il n'y avait rien à faire. Voilà aussi, voilà où nous en sommes rendus dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc le smartphone. D'abord, j'aime bien distinguer quand même pour rendre plus compréhensible mon propos, j'aime bien distinguer conversation et communication. La conversation, c'est d'abord un face-à-face, c'est-à-dire un visage à visage, une attention à l'autre, une écoute, une incertitude également du cheminement, une part pour le silence. Hein, on peut se taire ensemble quand on converse. Le silence fait partie aussi de l'amour, de l'amitié, quand il est dans ce contexte-là. J'oublie sans doute un certain nombre d'éléments, mais vous avez l'essentiel de ce qui constitue une conversation. La communication, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de visage, peut-être une vignette quelque part dans un coin de l'écran, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de visage, il n'y a plus d'attention à l'autre. C'est plus une attention flottante, et on voit bien en regardant des gens dans les rues qui envoient un SMS en faisant autre chose, ou dans nos réunions, dans nos visios, où chacun est en train de faire quelque chose de différent de ce qui est au cœur de la rencontre. Il y a quelque chose de très utilitaire également dans la communication. Il n'y a pas de place pour le silence, parce que dans la communication, le silence est une panne. Je ne t'entends plus, je te rappelle, ça passe plus, etc. Bon, voilà. Voyez comment il y a une différence anthropologique absolument fondamentale entre la conversation, qui est vraiment la reconnaissance élémentaire de l'autre, avec la communication, où l'autre est facultatif, d'ailleurs, un peu à distance. Bon, voilà. Voilà en gros le cœur de mon propos. Alors le smartphone aurait pu être évidemment un simple outil auquel recourir de temps en temps pour donner, recevoir des appels, chercher une information, etc. Mais finalement, il a totalement colonisé, je souligne, j'insiste sur ce mot, il a totalement colonisé la vie de la plupart de nos contemporains à une échelle absolument planétaire. Il n'y a pas de bidonville où vous n'allez trouver des gamins qui sont scotchés derrière leur portable toute la journée. Donc le smartphone a bouleversé en profondeur la sociabilité, l'univers professionnel. Il a fait disparaître sous nos yeux les adolescents, accaparés en permanence par leur écran. Il a profondément altéré l'expérience vivante du monde et des autres. Il est désormais non plus un outil, mais une source malheureusement devenue indispensable de la relation à l'environnement et aux autres, voire même la porte d'entrée qui mène à eux, avec en conséquence la contrainte de l'avoir en permanence sous la main, ou même à la main, comme les adolescents d'aujourd'hui, mais pas seulement. Cet inconfort de le tenir sans cesse, d'être penché pour l'utiliser, n'est en rien un obstacle à son usage. Son apparition a engendré de nouvelles attentes qui se sont répandues dans le monde entier. En ce sens, d'ailleurs, il réalise déjà la parfaite hybridation homme-machine, même s'il demeure encore pour l'instant à l'extérieur du corps, mais il y sera bientôt greffé, c'est inéluctable. Il est devenu pour des milliards de contemporains un compagnon nécessaire de la vie quotidienne, son médiateur obligé. Et chaque individu est devenu à plein temps la sentinelle anxieuse de son portable, effrayée du moindre relâchement, dans la crainte de manquer quelque chose, d'où ce sentiment d'urgence que tout le monde éprouve aujourd'hui, ou beaucoup de gens en tous les cas, alors que rien, leur univers professionnel ou familial, on ne voit pas trop en quoi il aurait pu s'accélérer ces derniers temps. Non, ce qui s'est accéléré, c'est évidemment quand on reçoit une centaine de notifications tous les jours, on est dans l'obsession de manquer quelque chose, même si ce sont des informations insignifiantes dans l'immense, immense majorité des cas. Le smartphone, donc à la main, accaparé par une communication orale, par la rédaction ou la lecture d'une notification, d'un téléchargement ou autre, les yeux braqués sur l'écran, les écouteurs aux oreilles, coupé de son environnement et plongé dans un univers intérieur sous contrôle, l'hyper-individu contemporain ne perçoit plus que de manière accessoire son environnement physique et humain, inlassablement interrogé au long du jour, parfois des centaines de fois. Le smartphone permet en effet d'être ici, d'être à la fois ici et ailleurs. L'environnement social devient facultatif. On y entre ou l'on en sort à sa guise grâce au recours à l'écran, même entouré de proches qui sont pourtant bien concrets à quelques centimètres de soi. Mais finalement, l'écran va également exercer son magnétisme dans la rencontre. La communication à distance, quelle qu'elle soit, offre l'avantage de s'en dégager à sa guise, sans politesse excessive, sans s'attarder. Elle donne le sentiment d'être entourée d'une reconnaissance sans défaut, juste à portée de clic, sans les nécessités d'une interaction dans le réel, toujours quelque peu imprévisible. Mais la sociabilité numérique n'est pas du tout dans la même dimension que la sociabilité concrète, avec des hommes ou des femmes en présence mutuelle qui se parlent et s'écoutent attentifs les uns aux autres. Paradoxalement, certains la voient comme une source de reliance, alors que jamais dans l'histoire, l'isolement des individus n'a connu une telle ampleur, jamais le mal de vivre des adolescents et des personnes âgées n'a atteint un tel niveau. Je travaille depuis des décennies sur les conduites à risque de nos jeunes. Elles ont explosé à partir de 2010, c'est-à-dire à partir du moment où le smartphone a été équipé d'une connexion à Internet à haut débit. On voit se multiplier aujourd'hui les scarifications de nos adolescentes, les suicides, les tentatives de suicide, le harcèlement qui est encore autre chose, qui est suscité par l'anonymat des réseaux sociaux. Voilà, et puis je vois aussi l'isolement grandissant des personnes âgées à qui souvent dans les immeubles plus personne ne dit bonjour parce que chacun passe dans les couloirs tiré en avant par son téléphone portable. Sur un plan social, on traverse une crise considérable à cet égard. Donc la fréquentation assidue de multiples réseaux sociaux ne crée ni intimité ni lien dans la vie concrète. Elle occupe le temps, mais elle ne donne aucune raison de vivre. Chacun est en permanence derrière son écran, même en marchant en ville. L'expérience individuelle de la conversation ou de l'amitié se raréfie. L'isolement se multiplie en donnant le sentiment paradoxal de la surabondance à travers l'abstraction de l'écran. Je ne suis pas du tout, évidemment, en train de faire du moralisme. Je traduis également dans mon analyse, qui est complètement un constat, vous le voyez bien, mais je reproduis là bon nombre d'expériences, d'enquêtes qui ont été menées, beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, puisque les Américains étaient beaucoup en avance sur nous, mais qui témoignent de cette montée, du fait que les Américains d'aujourd'hui ont nettement moins d'amis qu'il y a encore quelques années, que l'empathie n'intéresse plus du tout les étudiants, c'est Jerry Turkel qui le dit, quand les étudiants se disent « à quoi bon se mettre à la place des autres, c'est absolument sans intérêt ». Ce qui était l'un des fondements même du lien social, hein, le fait de se mettre à la place de l'autre dans une forme d'empathie, tout ça est en train de disparaître sous nos yeux, et c'est une conséquence de l'instrument, hein, conséquence de l'outil qui déborde complètement sur nos vies personnelles. Voilà donc le lien social s'atrophie, il n'en reste qu'une simulation d'une certaine manière, et les 100 amis ou les milliers d'amis des réseaux sociaux ne valent pas un ou deux amis du quotidien susceptibles un jour de poser la main sur votre épaule en situation de souffrance. Donc le smartphone est l'instrument royal de l'hyper-individualisation du lien social. Il conforte l'individu dans le sentiment qu'il fait un monde à lui tout seul, dans l'autosuffisance, grâce aux offres que lui procure son portable, dans le sentiment euphorique d'une liberté qui semble vouée à son seul plaisir. Donc évidemment, le smartphone renforce l'indifférence aux autres autour de soi, que l'on heurte parfois sur le trottoir par des parcours aléatoires, imprévisibles, tant l'attention est captive de l'écran, et au-delà, évidemment, cette indifférence tragique à l'environnement aboutit à des millions d'accidents, de morts, de blessés, etc. En tant que cycliste à Strasbourg, je passe mon temps à éviter des gens hypnotisés par leur portable qui font tout d'un coup pas sur la piste cyclable sans prévenir. Voilà, et en voiture, vous savez bien combien c'est également extrêmement dangereux pour les piétons. Mais en plus, il y a aussi les conducteurs automobiles qui regardent leur portable en même temps qu'ils conduisent. Et on sait combien de tragédies ça provoque dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc, nous sommes dans un monde où les autres, finalement, sont à disposition, convocables et congédiables à tout moment. La sociabilité numérique, donc, morcelle le lien social, détruit les anciennes solidarités au profit de celles abstraites des réseaux sociaux, avec des correspondants physiquement absents et la plupart du temps anonymes. La réciprocité du visage à visage, sans lequel on imagine mal que le lien social ne puisse pas avoir lieu. La réciprocité du visage à visage dans la respiration de l'échange devient aujourd'hui une exception. Le smartphone donc contribue à l'émiettement social et paradoxalement il se propose comme remède. Paradoxe absolument inouï, il y a des gens qui pensent qu'en effet le smartphone est un bon outil pour se rencontrer, etc. C'est, comme je dis souvent, c'est faire l'éloge du tsunami, parce que heureusement maintenant on a des pompiers qui sont bien formés pour secourir les survivants. Quoi. C'est, pour moi, c'est un peu sur ce registre. Là, je fais un peu un jugement de valeur, mais. Mais je crois que vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, constamment sollicités par leur smartphone, les piétons ne voient plus rien à leur entour, n'entendent plus rien, leurs perceptions sensorielles sont en partie éliminées au profit d'un seul regard hypertrophié sur l'écran. L'appauvrissement de la sensorialité accompagne celle de la restriction grandissante du lien social. Autrefois, par exemple, dans les administrations, les entreprises, dans les collèges, les lycées, à l'université, lors des pauses, on se retrouvait pour resserrer les liens, discuter du travail, échanger des nouvelles, accueillir les nouveaux également autour d'une tasse de café. Aujourd'hui, partout, chacun est derrière son téléphone portable pour regarder ses messages ou en envoyer. Le portable donc s'interpose en permanence entre soi et les autres comme une muraille invisible derrière laquelle se retirer à tout instant. En pleine discussion, certains le prennent en main, répondent à un appel ou envoient un texto en même temps qu'ils semblent continuer à écouter ou parfois laissent même carrément en plan leur interlocuteur. Le smartphone donc est un instrument d'évasion, une facilité à se détacher de toutes les rencontres avec les interlocuteurs en chair et en os devant soi diminuent ou deviennent quelque peu problématiques car avec eux, évidemment, la touche pause n'existe pas. Voilà, donc le passage de l'homo sapiens à homo numericus manifeste une rupture anthropologique absolument colossale. Pour moi, il y a un avant et un après, bon, peut-être du téléphone portable déjà autour des années 2000, mais particulièrement du smartphone à partir de 2010. Donc une rupture anthropologique colossale qui bascule dans l'anachronisme la plupart des principes que l'on croyait intangibles de la civilité et donc du lien social. Je crois qu'on est nombreux d'ailleurs à avoir monté les incivilités dans la vie quotidienne. Quand je dis incivilité, je ne veux pas dire qu'on se fait agresser ou autre, non. C'est simplement le fait qu'on a souvent l'impression qu'on n'existe absolument pas pour les gens qui sont nos interlocuteurs. Enfin, pour un certain nombre, en tous les cas, de nos interlocuteurs. L'autre devient un obstacle. Je suis d'ailleurs aussi frappé, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je suis frappé du fait qu'on entend de plus en plus de coups de klaxon dans nos villes, alors que ça avait quasiment disparu. Aujourd'hui, il y a une intolérance à l'autre, évidemment, parce qu'on est tellement habitué à une forme d'autisme social que l'autre est forcément encombrant, pénible, et on est volontiers en colère contre lui. Alors, même le repas de famille, qui était un haut lieu de la transmission dans nos sociétés, aujourd'hui est mis à mal, dans la mesure, évidemment, où chacun arrive un peu à son heure. Bon, ça, les sociologues de l'alimentation l'avaient pointé déjà de longue date. Mais quand les personnes sont ensemble, chacun est derrière son écran. Voilà. Donc, ils s'échangent plus grand-chose, finalement. On s'écoute d'une oreille distraite. L'écoute a quelque peu disparu. Et même, d'ailleurs, on mange avec une bouche également distraite. Il suffit de rentrer dans n'importe quel restaurant pour voir même des couples, chacun derrière son téléphone portable, et des amis qui sont tombés dans les bras les uns des autres. 5 minutes après, ils sont tous derrière leur téléphone portable ou en train de jeter un coup d'œil régulièrement. On sait combien, d'ailleurs, le téléphone est un parasite terrible dans toute discussion. S'il est sur une table, il y a beaucoup de sujets qui ne seront jamais abordés parce qu'il y a le sentiment que ça va sonner sans doute à un moment ou à un autre. Des tas de travaux ont été menés là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire sans doute qu'intuitivement, beaucoup d'entre vous l'avaient ressenti, mais un téléphone portable est toujours un parasite dans la rencontre. Donc on entre finalement dans une société fantomatique, d'où le sous-titre de mon livre, La parole dans une société spectrale, parce que c'est ce que j'ai ressenti profondément, en plus moi qui suis un grand voyageur, le sentiment d'être dans des grandes villes par exemple, habitées par des zombies, par des spectres, la difficulté par exemple de demander son chemin. Vous cherchez un long moment avant de trouver quelqu'un qui n'a pas d'oreillette dans les oreilles ou qui n'est pas hypnotisé par son téléphone portable. Donc, vous voyez, déjà au niveau élémentaire, on voit comment le lien social a été profondément abîmé, parce que ça, c'était banal autrefois, il n'y a encore pas longtemps, de demander son chemin dans la rue. Donc, partout, dans les cafés, les restaurants, les salles d'attente, les transports en commun, les trains, partout cette absence de visage, de regard, partout des individus penchés sur leur écran, la tête courbée. On ne se parle plus. Et voilà, la plupart de nos contemporains sont aujourd'hui presque en permanence prosternés. Évidemment, j'emploie délibérément un vocabulaire religieux, prosternés sur leur portable qui les pousse en avant, ou les maintient devant le monde dans une sorte d'hypnose sans fin. Ils parlent seuls dans la rue ou parmi les consommateurs d'un café ou d'un restaurant, sans crainte d'ailleurs de déranger les autres auprès d'eux. On n'a jamais autant communiqué, mais jamais aussi peu parlé ensemble. La parole glisse dans la seule nécessité du rappel de contact, ce que les linguistes nomment la fonction fatigue du langage, fondée donc sur le contact uniquement, mais elle est insuffisante en elle-même pour établir la réciprocité et l'échange d'une signification dotée de valeur. Ces innombrables contacts quotidiens ressemblent finalement à une sorte de relance technique, de confirmation de soi et de mutuelle existence. Les conversations, je saute de temps en temps des passages de mon texte parce que j'ai l'impression que le temps va vite. Donc les conversations qui sollicitent un face-à-face, ou plutôt un visage à visage, une écoute, une attention à l'autre, à ses expressions, deviennent rares, de même d'ailleurs le tact, la délicatesse qui les unissait. Et souvent, en effet, elles sont rompues par des interlocuteurs toujours là physiquement, mais qui vous laissent en plan à l'audition de d'une sonnerie, ou simplement parce qu'ils ont le geste réflexe, on le voit régulièrement, toutes les 3-4 minutes, ils se sentent obligés de sortir leur téléphone portable, de crainte de manquer un message, et vous êtes là dans la suspension de la phrase que vous alliez dire, parce que vous avez perdu l'attention de votre interlocuteur. Et on a souvent l'impression, d'ailleurs, devant certaines personnes, de faire de la figuration, que la touche pause va sans doute très vite être mise en branle, parce que votre interlocuteur a des choses plus intéressantes à faire à ce moment-là. Alors, évidemment, les enfants restent encore relativement attentifs à ça, à cette perte de reconnaissance. Je cite cette petite fille qui ne voit son père qu'en fin de semaine, donc elle a 1000 choses à dire, elle a 5-6 ans, elle raconte sa semaine, le père est hypnotisé par son téléphone portable, la petite s'arrête après un moment et dit « Papa, tu m'écoutes ?» Le type répond « Oui, oui, je t'écoute », il continue à pianoter, la petite continue à parler, ça recommence, papa tu m'écoutes, oui oui je t'écoute, en colère, meurtrie, elle dit papa je veux que tu m'écoutes avec les yeux, voilà, formule absolument percutante, mais qui traduit aussi le désespoir de beaucoup d'enfants d'aujourd'hui ou de beaucoup de gens dans la vie quotidienne qui n'ont plus ce visage à visage, ces yeux dans les yeux qui caractérisaient d'ailleurs anthropologiquement la conversation. Donc, vous voyez l'émergence d'autres formes d'incivilité aujourd'hui, de laisser en plan son interlocuteur, de faire semblant de l'écouter. Et puis voilà. Bon, je passe quelques anecdotes aussi que j'aurais pu raconter. Oui, d'accord. Ok. Alors, oui, le fait que beaucoup de métiers, justement, deviennent aujourd'hui assez compliqués. Hein, plus on communique et moins l'on se rencontre, plus l'autre vivant près de soi devient superflu ou encombrant. L'exercice de maintes métiers est devenu difficile. Les coiffeurs, les esthéticiennes et plein d'autres encore regrettent le temps où les soins appelaient une conversation, un souci de l'autre. Aujourd'hui, les clients sont plutôt derrière leur portable. Les caissières des grands magasins se plaignent que des clients ne quittent plus leur écran des yeux sans même les saluer ou les remercier. Dans les restaurants ou les cafés, les serveurs sont souvent contraints à des va-et-vient et d'attendre la fin des consultations du portable ou de recevoir une commande sans que les yeux du client lâchent l'écran, et même plus cette reconnaissance élémentaire de l'autre. Les chauffeurs de taxi transportent des clients mutiques qui lâchent par moments une grande exclamation en lisant leur message, ou alors qui envahissent l'espace de leur discussion avec leur téléphone. Maints endroits autrefois dédiés au silence ou à la conversation sont colonisés par des appels à voix haute, ou des écoutes de vidéos qui n'ont guère le souci de la discrétion ou de la tranquillité des autres. Voilà. La connexion tend aujourd'hui à prendre le pas sur une conversation renvoyée à une forme d'anachronisme. Bon, je l'ai dit, la difficulté de demander son chemin dans les rues. Parfois même, l'expérience est commune, on peine à se faire remarquer d'un vendeur ou d'un employé derrière son guichet, mobilisé par sa connexion. Même les personnes sans abri qui sont derrière leur téléphone portable également, et si on s'arrête, ils ne vous ont pas vu. Là où il y a encore quelques dizaines d'années, un événement était vécu avec une conscience pleine, avant de faire plus tard l'objet d'une lettre ou d'une narration avec des proches ou d'un appel téléphonique de retour chez soi, est aujourd'hui envahi par cet événement et envahi par l'immédiat de la communication qui s'interpose en permanence. Alors, une anecdote, parce que là, je trouvais que c'était vraiment le comble de la caricature. C'était un jour où j'étais avec ma compagne entre l'Argentine et le Brésil sur les chutes d'Iguassu. Et donc, il y a plein d'endroits où on voit les chutes de très belles façons, mais l'endroit le plus spectaculaire était envahi d'une quarantaine, d'une cinquantaine de personnes qui tournaient le dos aux chutes pour se photographier en selfie ou pour tenir des grandes discussions. C'est super. Ah, si tu étais là, tu faisais... Donc, il a fallu jouer d'écoute pour arriver sur le parapet pour regarder. Voilà, voilà le monde dans lequel aussi nous sommes. Bon, beaucoup de d'hommes de théâtre, dans les cinémas maintenant ou dans les concerts, on nous dit pas interdiction d'utiliser votre portable, parce qu'en effet, il y a des aides portables qui empêchent la plupart du temps de voir les chanteurs, les musiciens ou autres. L'incivilité, d'autres formes d'incivilité, donc... gagne énormément du terrain. Alors, aujourd'hui, évidemment, on peut dire qu'il y a une sorte de taylorisation de la communication pour liquider tout en mort. Et pourquoi je cite Taylor ? Taylor, c'est le taylorisme des usines Ford des années 20, qu'a dénoncé d'ailleurs Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et cet ingénieur, donc, qui a rationalisé le travail, qui a inventé des formes de management extrêmement brutales, son mot d'ordre, c'était... Guerre à la flânerie. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on n'est absolument plus du tout dans le temps de la flânerie. La flânerie est devenue une forme de résistance politique majeure. Flâner, ça veut dire avoir les mains dans les poches, le nez au vent et regarder les autres, regarder le monde autour de soi. Aujourd'hui, une immense majorité de possesseurs de smartphones sont absolument dans l'impossibilité de flâner. Ils sont toujours sur le qui-vive, dans un état d'urgence, de stress, avec le sentiment que leur temps nous échappe. Alors, difficile de ne pas rappeler la déclaration cynique de Patrick Lelay, alors responsable de TF1 en 2004. Il disait « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. » Eh bien aujourd'hui, notre temps de cerveau disponible est vendu acquis aux grands maîtres de la Silicon Valley, qui sont les ennemis absolus de nos démocraties, qui sont souvent des hommes d'extrême droite, racistes, adeptes d'une relative suprématie blanche à l'image de Trump, etc. Voilà. À chaque fois qu'on se connecte sur ces réseaux sociaux, on les enrichit encore, eux qui sont devenus les hommes. Il n'y a aucune femme. On retrouve cette dimension très genrée aussi, peut-être du Caire et autres, mais en tous les cas, voilà. On enrichit ces hommes qui nous méprisent profondément et qui font tout, qui envoient leurs enfants, d'ailleurs, vous le savez, dans les écoles Waldorf, qui sont fondées plutôt sur l'éducation physique, où il n'y a pas de, où il n'y a pas de numérique. Oui, la perversité de ces hommes, pour beaucoup d'entre eux en tous les cas, bon, j'entre pas dans les détails, mais ça a été beaucoup documenté par un certain nombre de chercheurs, notamment aux États-Unis, Thierry Turkel, qui suit ça depuis très longtemps. Alors, nous avons craint la brutalité de Big Brother pour le façonnement des esprits, mais finalement c'est la bienveillance de Big Mother qui l'emporte de manière absolue, en pourvoyant par la grâce des outils numériques un divertissement sans fin, un enveloppement chaleureux, toujours disponible, prévenant, sans risque de rebuffade. Ce formatage des esprits, par l'occupation permanente sur le fond de l'éloignement bien réel des autres autour de soi, fait curieusement écho aux analyses d'Hannah Arendt autour des sociétés totalitaires. Voilà ce qu'écrivait Hannah Arendt. On a souvent fait observer que la terreur ne peut régner absolument que sur des hommes qui sont isolés les uns des autres, et qu'en conséquence, l'un des premiers soucis de tout régime tyrannique est de provoquer cet isolement. L'isolement peut être le début de la terreur, il est certainement son terrain le plus fertile, il est toujours son résultat. Fin de la citation. Cependant, cet homme, cette femme, contraint à l'isolement dans la foule des autres isolés, maintenait jusqu'à un certain point la souveraineté de son rapport au monde. En revanche, pour Hannah Arendt, une société totalitaire vise à détruire la vie privée et à couper toute relation aux autres, désormais sous l'égide de la méfiance, de la peur de la dénonciation. Aujourd'hui, bien entendu, il ne s'agit plus de terreur, mais de séduction, pour un résultat infiniment plus efficace de contrôle et d'uniformisation des esprits. Vous voyez, quasiment dans le monde entier, l'émergence de régimes d'extrême droite, un antisémitisme, un racisme totalement décomplexé, voilà, pour, à mon avis, l'une des conséquences indirectes de cet isolement de chacun derrière son téléphone portable, dans l'oubli du monde environnant. La pénétration planétaire de l'Internet et des réseaux sociaux, le formatage inouï qu'elle produit, notamment chez les adolescents, isole les individus en les noyant sous une communication sans fin d'informations. Le totalitarisme ici en question est celui de ces technologies de l'information et de leurs algorithmes qui enferment chacun dans sa bulle pour en faire un consommateur épanoui dont les capacités de penser la complexité du monde sont profondément altérées. Et là aussi, on retrouve Hannah Arendt, je la cite, « Le sujet idéal de la domination totalitaire n'est pas le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais les gens pour qui la distinction entre fait et fiction, c'est-à-dire la réalité de l'expérience, justement, et la distinction entre le vrai et le faux, n'existe plus. » Voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec les fake news en permanence, avec des menteurs patentés qui changent d'avis du matin au soir, comme Trump, par exemple, et qui donne un exemple absolument terrifiant dans le monde entier, non seulement aux plus jeunes, mais aussi à d'autres hommes politiques. Finalement, à partir du moment où lui le fait, il n'y a pas de raison de ne pas le faire à son tour. Voilà, donc je passe sur l'émergence des fake news. C'est en plus, évidemment, cette digitalisation du lien social accélère tragiquement la catastrophe écologique. On parle tout le temps des avions, ce qui me choque, parce que les avions, finalement, sont beaucoup moins consommateurs de réchauffement de la planète, de destruction écologique et autres, que cette espèce de colonisation planétaire, justement, du smartphone. Alors, cette digitalisation du lien social donc, accélère tragiquement la catastrophe écologique qui se déploie sous nos yeux, la prolifération exponentielle des appareils électroniques, à l'image des smartphones, exige des quantités considérables de métaux rares enfouis dans des sols qu'il faut souvent abîmer en profondeur pour les en extraire, ce qui implique en outre une grande quantité d'eau, d'énergie et le recours à des substances chimiques catastrophiques pour l'environnement. Par ailleurs, les recharges en énergie des appareils, le stockage des données dans les data centers qui se multiplient maintenant avec l'intelligence artificielle, tout cela impose une quantité sans cesse croissante d'électricité qui contribue évidemment au réchauffement climatique. Les outils numériques sont aujourd'hui responsables... Bon, je passe sur les chiffres qui m'ont jamais beaucoup intéressé, mais qui montrent en tous les cas combien il y a une incidence majeure aujourd'hui du numérique sur le réchauffement de la planète. Voilà. Le capitalisme de la communication et de l'information reformate le monde à son usage en rendant ses usagers de plus en plus impuissants. Le monde de demain sera totalement informatisé, il n'y aura plus d'interstices libres dans ce contexte de dématérialisation grandissante. En outre, le marché de l'intelligence artificielle, évidemment, ne cesse de s'étendre à l'infini. Je vais terminer... j'ai pris froid, ma voix est un peu cassée. Je vais terminer mon propos justement sur ce qui nous concerne au premier chef, c'est-à-dire les enfants, et je vais évoquer les cris d'alarme aujourd'hui menés par un certain nombre de pédopsychiatres sur ce qu'il advient de nombre de petits, parfois de tout petits, qui ont 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Beaucoup d'enfants souffrent aujourd'hui d'une absence radicale d'écoute à l'intérieur même de leur famille. Une absence radicale d'écoute, d'attention, ils ne connaissent que par intermittence l'attention et la parole de leurs parents, qui leur parlent parfois les yeux rivés sur leur écran. Pour les faire taire, ne plus avoir à s'en soucier, les parents donnent même à des tout-petits un smartphone pour qu'ils regardent des dessins animés toute la journée. Détachés de leurs responsabilités, ces parents se soucient alors de leurs propres affaires. L'enfant est secondaire, hypnotisé lui-même d'ailleurs par le smartphone. L'enfant est ailleurs, il ne pose plus de problème, et des enfants à partir de 2 ou 3 ans surexposés aux écrans sont de plus en plus nombreux dans les consultations de pédopsychiatrie. Leur langage à ces enfants-là est stéréotypé, répétitif, calqué sur les dessins animés qu'ils voient chaque jour pendant des heures, ponctué de mots anglais dont ils ne comprennent pas le sens, avec une intonation, une voix complètement artificielle, qui est celle notamment des dessins animés. Transformés en clones vivants des images qui leur tiennent lieu de rapports essentiels au monde, ces enfants sont dévorés par ce qu'ils voient et entendent sur l'écran, leurs capacités cognitives sont profondément altérées, de manière plus ou moins incisive, lors de ce moment intense de socialisation, d'apprentissage, où les enfants requièrent attention, vigilance, amour. Les apprentissages élémentaires de la vie commune ne s'établissent pas, ou mal, ces enfants entrent maladroitement dans la langue et dans l'interaction avec les autres, car ils n'en ont guère eu l'usage dans la relation à leurs parents, souvent saisis par cette hypnose justement de leur téléphone portable, pour des raisons professionnelles ou parce qu'ils sont eux-mêmes d'ailleurs dans l'addiction aux réseaux sociaux ou aux vidéos prodiguées par l'écran. Ce sont des enfants dont le regard n'accroche pas à leur interlocuteur, comme si l'autre devant eux était transparent, inconsistant, du fait de ne pas être sur l'écran. Ces enfants sont d'ailleurs souvent décrits comme étant dans une bulle. Ils ne savent pas jouer, ils ne montrent aucune curiosité pour leur environnement, ils sont passifs dans les activités ordinaires du quotidien, comme de s'habiller par exemple. Si on les prive un instant de l'écran, ils hurlent, se roulent par terre, détruisent des objets à leur entour dans de violentes colères, ou alors... ils restent prostrés, comme si on les avait éteints. Leur point commun est de passer chaque jour des heures devant l'écran. Leurs parents ont trouvé là un narcotique efficace pour être tranquilles dans leurs propres activités et ne plus être dérangés. Outre d'ailleurs leurs parents, souvent les babysitters, adeptes elles-mêmes ou eux-mêmes du smartphone, laissent l'enfant derrière l'écran de la télévision ou du portable pour avoir la paix. À l'école, ces enfants sont passifs, peu concernés par les activités proposées, ou bien hyper agités, car ils sont incapables de se concentrer. Des pédopsychiatres pointent une proximité de ces troubles, de la présence, avec certaines formes d'autisme, mais ici, créées de toutes pièces par la juxtaposition aux écrans. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc la parole qui était finalement une sorte d'objet transitionnel, comme aurait pu dire Winnicott, d'objet transitionnel dans nos échanges avec les autres et puis dans notre rapport au monde, cette parole est en train de traverser une crise immense aujourd'hui. Je sais bien que certains d'entre vous vont me trouver pessimiste, mais si vous réfléchissez un seul instant, vous saurez très bien que je ne fais que constater ce que chacun de vous constate. Mais que beaucoup, beaucoup évidemment sont aveuglés par leur passion pour leur écran et ne veulent pas réfléchir trop, parce que justement ça nous met en question. Mais voilà, donc il y a effectivement de quoi être un petit peu inquiet pour l'avenir de nos démocraties, l'avenir du lien social, de l'université, de l'école, de la formation. Pour ma part, c'est mon cas. Voilà, mais si je suis pessimiste, comme je dis souvent, ce n'est pas un pessimisme moral, hein, c'est un pessimisme méthodique. Ce qui laisse place à l'action, évidemment. Merci infiniment de votre écoute.
Bien. Merci beaucoup David Le Breton pour cette conférence qui nous parle effectivement de beaucoup de manières. Nous allons maintenant inaugurer un premier temps d'échange, donc n'hésitez pas à prendre la parole, que ce soit par des réactions, par des questions, par des demandes de compléments d'information. Je rappelle seulement effectivement ce dernier livre, La fin de la conversation, point d'interrogation. La parole dans une société spectrale, on retrouve beaucoup des éléments et des apports de votre intervention d'aujourd'hui. Voilà. Donc la parole est à vous et je passe immédiatement la parole à Monsieur Stéphane Ballas.
Merci Joris. Bonjour Stéphane Ballas, je suis enseignant ici au CNAM en sciences de l'éducation et la formation. Oui. Alors je ne suis pas tellement spécialiste des questions des enfants, mais j'ai entendu aussi effectivement ces constats alarmants des pédopsychiatres, évidemment. Alors, tout ça pour vous dire que les constats que vous avez faits, qui sont plutôt sous forme de déploration, sont évidemment justes, et j'en discuterai pas le fond, je vais même m'abonder, mais je vais essayer de retourner un peu votre propos un instant pour l'exercice. Quoi. Oui. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, quand vous parlez de l'artificialité des rapports humains, ça me fait penser à l'expression du grand chanteur Stromae, qui parle dans une chanson des amis en plastique. Je trouve que c'est une jolie formule. Deuxième exemple qui m'est venu en vous écoutant, c'est le fait que les smartphones sont l'outil dont la généralisation, la création et la généralisation ont été les outils les plus rapides à se répandre dans l'histoire de l'humanité.
Absolument.
Quand même, c'est intéressant. Je crois que c'est 3 ans entre le premier smartphone et sa généralisation, donc c'est assez incroyable.
Oui.
Ça a été battu depuis par l'arrivée de l'IA, qui a été le passage de 1 à 1 million a duré 3 jours. C'est absolument incroyable. Et puis j'ai pensé aussi très fort à Toby Nathan, qui est notre psychiatre, comme chacun sait, qui disait, c'est incroyable, à Paris, je rencontre beaucoup de schizophrènes, et puis après, je m'aperçois que c'est des gens qui sont en train de parler dans leur téléphone. Voilà, donc c'est assez amusant.
Oui, tout à fait.
Voilà. Bon, mais tout ça pour vous dire que moi, je vais essayer pour l'exercice de me dire qu'un outil, même si évidemment, il oriente les pratiques, etc., enfin, on le sait bien, a quand même une forme de neutralité, et que c'est son usage qui en fait le bien fondé ou le mal fondé, on va dire. Et donc, la question, évidemment, c'est sans doute de déplorer cette généralisation dans les usages qu'on en fait. Voilà. Et donc, la question qu'on se pose quand on est prof en sciences de l'éducation, c'est comment on pourrait faire de ces outils des instruments du bien plutôt que du mal, pour le dire avec un peu de simplicité. Et comment on pourrait aussi participer à éduquer les gens à ça, quoi. Voilà. Et donc, moi, j'ai un exemple qui me vient, c'est un usage pédagogique que j'ai en cours, qui a été, j'en parle facilement, parce qu'il a été inventé accidentellement par une étudiante. Oui. Donc, c'est pas moi, c'est elle. Oui. Je trouve ça assez génial. Séance d'observation de situation de travail, puisque je les forme à l'analyse du travail. Eh bien, en sous-groupe, il y en a un qui prend son smartphone et qui va filmer et qui transmet en direct à deux autres qui restent en extériorité. Puis il y a un travail sur ce film pour analyser avec l'un qui l'a vécu avec des choix d'angle et les deux autres qui l'ont vécu avec une distance. Et cette simple distance permet de travailler la réflexivité d'une façon beaucoup plus efficace que s'ils avaient été en observation tous les trois. Voilà. Bon, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait trouver. Donc c'est des outils qui sont aussi des outils du meilleur quand on peut... voilà. Mais peut-être que le point commun des usages vertueux, c'est qu'on utilise notre cerveau pour les utiliser. Quoi. Voilà. J'arrêterai là. Merci beaucoup.
Merci. Bon, que vous répondre ? Je pense que les usages vertueux, comme vous dites, sont quand même infiniment rares au regard du déferlement de blessures qui affectent le lien social. En plus, s'agissant de nos étudiants ou des élèves en primaire, en secondaire, au collège, etc., on voit bien l'impact terrible du smartphone avec des enfants qui posent des tas de problèmes de santé publique, d'ailleurs. La sédentarité se paye très cher à de multiples égards. Ce sont des enfants qui dorment très peu, qui dorment moins. Ils dorment avec leur téléphone portable quand leurs parents ne veillent pas au grain, en tous les cas. Donc, ce sont des enfants qui s'endorment en cours, qui n'ont pas du tout la capacité d'attention que nous avions à leur âge il y a quelques décennies. Et puis en plus, le fait que ce sont des gamins qui ne discutent strictement que de ce qui se passe sur leur écran. Ils ne parlent pas du monde qui les entoure, ça les intéresse beaucoup moins que le fait de télécharger, de voir une vidéo formidable, etc. Donc ils ne bougent plus. Je cite souvent, là je ne l'ai pas fait tout de suite, mais il y a une recherche qui a été menée par un médecin britannique il y a quelques années, qui a comparé des générations de 8 ans sur plusieurs générations. Il y a une 80, dans les années 20, disons, du siècle précédent, les gamins faisaient une dizaine de kilomètres au-delà de chez eux, hein, pour aller jouer dans des forêts, des lacs, ils allaient se baigner, ils se baladaient, etc. Quelques décennies plus tard, on est rendu à plusieurs kilomètres, et aujourd'hui, tenez-vous bien, 300 mètres. Un enfant de chez nous fait 300 mètres. Comment voulez-vous apprendre le monde, être dans l'expérience du monde avec une telle atrophie de ce qui se passe autour de soi? Voilà. Et puis en plus, tous les autres problèmes que ces enfants auront, problèmes de cervicale, ça arrive déjà, hein, si vous en discutez avec des spécialistes, problèmes d'audition, de myopie aussi d'ailleurs, parce qu'avoir toute la journée, il y a des recherches qui montrent que lire un livre, c'est pas du tout comme regarder fixe. Quand on est sur l'écran, on a les yeux qui restent fixés obsessionnellement sur le même point. Quand on lit, on a les yeux qui se baladent. Et ça, c'est très nocif, effectivement, de rester en permanence sur le même écran. Bon, donc il y a des tas de problèmes de santé publique, mais surtout des problèmes d'attention à l'autre, d'empathie. C'est ça surtout qui me trouble, parce que en sociologie, on enseignait les travaux de Herbert George Mead, notamment sur le fait qu'il n'y a pas de soi sans l'autre, qu'il fallait intérioriser les significant others, les autres significatifs pour soi, et se mettre à la place de l'autre. C'est toute la sociologie d'Erving Goffman, d'ailleurs, qui aujourd'hui vole en éclats. Parce que Goffman, pour Erving Goffman, rappelez-vous, l'interaction était fondée sur le fait de ne jamais blesser l'autre, de ne pas faire perdre la face à l'autre. Aujourd'hui, on se dit que très souvent dans la vie quotidienne, sans nous vouloir du mal, mais il y a un certain nombre de nos interlocuteurs, en effet, qui nous abîment, qui nous font mal, qui mettent notre face, en tous les cas, en question. J'ai l'impression parfois qu'il y a tout un pan de la sociologie qui bascule, qu'il faut réinventer d'autres concepts, d'autres usages, parce qu'on a changé de paradigme. Voilà. Mais bon, je crois que chacun de nous le vit à son échelle. Il y a eu une rupture anthropologique qui s'est passée dans ces années de 2010, avec que le Covid a malheureusement accentué. Avant le Covid, pour ma part, je n'avais jamais fait une seule visio. J'ai l'impression que maintenant, ça devient extrêmement courant, malheureusement, de faire des réunions. Autrefois, on se réunissait ensemble autour d'un café. Non. Aujourd'hui, la visio, et c'est bien ce qui se passe dans les visios, on est chacun derrière en train de faire son propre boulot en attendant d'être interpellé. Voilà. Donc, il y a une espèce de déréalisation du monde. Je ne peux pas dire de déshumanisation, parce que là, ce serait un jugement de valeur qui n'aurait pas beaucoup de sens. Mais en tous les cas, il y a une déréalisation du rapport à l'autre, du rapport au monde, qui n'est pas sans incidence sur la formation, sur l'université, sur nos métiers d'enseignant.
Eh bien, merci.
Où êtes-vous, pardon?
Ah oui.
Ça marche ? Ok. Oui. Okay. Bien, merci, monsieur le professeur Le Breton. Je remercie aussi le colloque et l'équipe du colloque pour cet événement. Vous avez présenté un cadre philosophique très fortement axé sur les défauts du monde entier dans le domaine de l'éducation, c'est ma perception. Ce que je vous demande, c'est ce que vous pensez, parce que c'est moi cette perception-là, que la société est malade. Et la relation école-famille est malade. Notre collègue a parlé du professeur Portois. La relation école-famille, c'est une grosse question de recherche. J'avais travaillé là-dedans dans quelques années aussi, dans l'équipe de professeur de Portois. Et ce que je vous demande, c'est que, selon votre pensée, est-ce que nous constatons qu'il y a, parmi les jeunes et parmi les élèves, même les étudiants, disons, dans l'âge plus âgé, et dans ce cadre de l'insertion professionnelle et d'intégration sociale, est-ce qu'il y a une sorte de passivité agressive, inconsciente, dans la jeunesse d'aujourd'hui? Parce que les jeunes ne s'intéressent pas au savoir. Et les jeunes s'intéressent à des choses qui sont des défis pour la société, qu'ils ne répondent pas à ses besoins et à ses motivations. Ça veut dire qu'il y a nous savons ce qu'est la motivation. La motivation peut déclencher une frustration. Il y a la frustration dans l'inconscient collectif de la société actuelle. Et cette frustration, au niveau des jeunes, remet pour cette sorte de immobilisation, disons, d'erreur. C'est une sorte de dissimuler cette manque de motivation qui les engage avant d'erreur lui-même, eux-mêmes. Et ça veut dire que ça devienne une sorte de passivité inconscientement active qui va déclencher dans l'agressivité sociale et institutionnelle. Est-ce que vous êtes dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut dire, parmi les recherches qu'il y a là-dedans, et qu'il y a ce défi-là pour l'éducation et pour la société, et spécifiquement parmi nous, entre l'Europe? Il y a quelques dizaines d'années, j'avais proposé que les communautés européennes devraient devenir, à ce temps-là, c'était communauté de communication, communauté économique. Et j'avais dit, la seule chose de sauver l'Europe, c'est par la communauté d'éducation européenne. La sigle, c'est la même. C-E-E, mais pas économie, mais par l'éducation, par les métiers, par les professions, d'enlever les citoyens à un niveau de bien-être social plus agréable, et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui.
Oui.
Je vous demande cette question-là au niveau de la philosophie de l'éducation. Merci beaucoup.
Oui, je vous remercie. Je suis assez d'accord avec votre constat, notamment. Je suis vraiment désolé de tousser comme ça tout le temps. Bon, je suis en accord avec votre constat sur cette espèce de passivité, entre guillemets, même si c'est un jugement de valeur quand même, parce que j'imagine que quelqu'un pourrait nous dire que ces jeunes sont hyperactifs en même temps derrière leur écran, qu'ils développent d'autres habiletés qui ne sont pas forcément les nôtres et qu'il n'y a pas de raison de privilégier les unes au regard des autres. Mais en même temps, ces valeurs qui sont ces valeurs qui caractérisent nos jeunes sont beaucoup moins celles de la sociabilité, du partage, de la de l'écoute du monde, de la sensorialité du monde et autres, d'où la difficulté que nous avons aujourd'hui en tant qu'enseignants à cet égard, ou en tant que parents d'ailleurs. On sait que c'est très compliqué de faire marcher, par exemple, des adolescents. Les enfants sont ravis de marcher, mais les ados, c'est un effort quand même. Ça ne veut pas dire qu'on n'en rencontre pas sur les sentiers, heureusement on en rencontre, mais on se dit qu'ils sont un peu à part ceux-là. De la même façon, je vois bien à la fac, il y a un certain nombre d'étudiants qui restent de formidables lecteurs, qui sont attentifs à la chorégraphie, au théâtre, au monde qui les entoure, ils voyagent, etc. Mais dans mon expérience d'enseignant quand même de longue date, ils deviennent rares ceux-là. C'est un peu des perles rares qu'on est vraiment heureux de croiser dans nos échanges, parce qu'on se dit que finalement, ils sauvent quelque part le goût qu'on avait de notre métier. Mais pour beaucoup d'autres, non. On a du mal, même en sociologie. On peut dire qu'en sociologie, en principe, on avait des étudiants qui interrogeaient le monde, qui avaient une volonté de changer le monde, de combattre les injustices et autres. Aujourd'hui, non. Quand vous vous baladez dans les couloirs de la fac de sociaux, vous allez les voir tous derrière leur téléphone portable. Ils bloquent les passages, d'ailleurs. Ils ne se rendent pas compte. Il y a aussi manque d'empathie ou d'identification aux autres. Ils ne se rendent pas compte qu'ils bloquent le déplacement des uns et des autres. Voilà. On a énormément de mal, mais c'est banal dans vos expériences pour chacun, chacune. On a énormément de mal à leur faire lire plus de quelques pages, parce que la concentration devient compliquée. La concentration de l'hypermédia n'est pas du tout celle du livre ou d'un article, par exemple. Donc, plutôt que de lire un article de Simmel ou de Marcel Mauss, ils vont essayer d'avoir un résumé de trois, quelques lignes, etc. Bon. C'est pour ça que, d'ailleurs, on voit l'humanisme est vraiment mis à mal, parce que l'humanisme, c'était quand même l'éloge du savoir, de la connaissance, et avec une visée de générosité, de transformer le monde de manière heureuse. Aujourd'hui, à mon avis, ce sont des valeurs qui disparaissent. Voilà. Il n'y a plus trop le désir de changer le monde pour les autres, en tous les cas, mais de changer le monde pour soi. C'est l'hyper-individualisation du monde d'aujourd'hui qui rend le lien social de plus en plus compliqué. Voilà.
Si je peux me permettre, ça fonctionne, vous m'entendez? Oui. 1, 2, 1, 2, 3. Cher collègue David Le Breton.
Je peux répondre à tout en même temps.
Ah. Arnaud Morange, sociologue, institut.
Pardon.
Je suis ici, institut de formation en travail social Normandie-Caen. Alors, en qualité de sociologue, je ne peux qu'abonder dans votre constat, effectivement. Alors, moi, j'aurais une question et une observation. La première, ce serait. Alors, je connaissais déjà vos. Parce que moi, je vous décernerais quand même le statut un peu de lanceur d'alerte. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait vous considérer comme, on me fait le coup aussi, un peu passéiste, un peu, bon voilà, on est un peu hors temps, c'est pas l'outil qui crée le problème, mais les usages qu'on en fait, etc. Bon, on connaît tout ça. Mais la question que j'aurais vous poser depuis que vous avez travaillé sur ces jeunes Japonais qui s'enfermaient il y a 30 ans, devant des écrans déjà, et vous étiez déjà en alerte, c'est la question du consentement. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait que nous avons consenti à nous livrer véritablement pieds et mains liés? Alors ça renvoie peut-être du côté de nos collègues philosophes, mais vous, en tant que peut-être sociologue des émotions, du ressenti, qu'est-ce que vous pourriez dire de ce processus qui amène à la situation absolument totalitaire que vous décrivez? Et pire encore, et là, ça sera mon observation, avec l'intelligence artificielle générative, et je crois que nous sommes tous ici plongés dans un abîme de perplexité, pour ceux qui n'ont pas plongé tout de suite directement dans le fameux outil, à savoir que pour tout ce qui concerne les formations et les pratiques professionnelles, c'est une véritable révolution en cours, on est en plein dedans. C'est-à-dire que vont devenir les mémoires de fin d'études, que vont les devenir, thèses. Y compris les thèses, etc., etc. Donc ça pose des questions absolument redoutables, comment on se saisit ou pas, ou comment on résiste, si il est encore possible de résister à cette véritable nouvelle révolution anthropologique. Pour le coup, je crois... qui va dépasser celle du smartphone. Voilà, merci.
Bon, ben, je vais déjà commencer à répondre. Alors, c'est évidemment la séduction. C'est ça la puissance des réseaux sociaux, c'est leur séduction, la puissance aussi de l'outil qui semble nous mettre le monde à portée de main, à portée de clic, répondre en apparence à toutes nos questions quand on n'est pas trop exigeant quand même. Voilà, c'est la force, le pouvoir par la séduction, plutôt que par la violence. Voilà. Et puis donc c'est le statut de l'écrit également, de la pensée qui est mise en question profondément. Je m'interroge effectivement sur les prochaines thèses, les prochains mémoires. De toute façon, on a vu disparaître les mémoires. Hein. Quand j'étais plus jeune, on faisait des mémoires, enfin à Strasbourg en sociaux, il y avait des mémoires en licence, il y en avait en maîtrise, et puis première année de DEA, où les étudiants nous remettaient également un gros dossier sur l'avancée de leur thèse. J'ai vu progressivement disparaître les mémoires de licence, les mémoires de master du coup sont devenus tout petits. Et puis voilà, donc mais à quoi bon dans ce cas-là l'université si on n'est pas justement ouvert sur l'universel? L'université, c'est l'universel, et l'universel, on ne peut pas l'avoir en restant dans son coin, en lisant quasiment rien. Non, donc voilà, il y a de quoi en effet être très inquiet. Je suis assez d'accord avec vous sur la révolution également. Cette autre rupture anthropologique de l'IA qui fait que, je ne sais pas si vous avez ça, mais quand je lis mes mails, maintenant, il y a un truc qui s'affiche qui s'appelle, je crois, copilote, et qui veut me donner un résumé de mes mails. C'est absolument hallucinant. On est pris, c'est pour ça que je parlais de Big Mother et pas de Big Brother, parce que Big Brother, c'est le contrôle, la violence. Big Mother, c'est mon petit, je veux tellement que tu ne perds pas de temps avec ça. Je vais te résumer le mail, je vais te résumer l'article. Pour le film, écoute, on peut supprimer une demi-heure du film, comme ça tu auras toute l'intrigue, etc. Voilà ce monde du réconfort, mais qui n'est évidemment pas du tout à notre avantage.
Oui. Merci de votre intervention et de vos réponses. Moi, j'ai deux axes. Le premier, c'est Marshall McLuhan,
oui, bien sûr.
Comprendre les médias.
Absolument. Hein,
il disait l'important, ce n'est pas le message, c'est le média lui-même. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas un outil, c'est un prolongement de soi.
Oui.
Et quelque part, on a tort de le prendre comme un outil hostile. Hein, c'est un prolongement qu'il faut plus ou moins, sinon domestiquer, ou en tout cas... apprivoisé, dirait Serge Tisseron. Mais c'est intéressant parce que McLuhan dit d'abord, il prend l'exemple de l'imprimerie Gutenberg et de l'arrivée du livre en grand nombre. Et il dit finalement, avant, dans la peinture, Moyen-Âge, chacun était représenté en fonction de son rang et donc ils avaient une taille plus ou moins grande, c'est-à-dire qu'en regardant le tableau, on se voyait dans la représentation de sa position sociale.
Oui.
Avec le livre, pas du tout. On regarde la connaissance de l'extérieur avec un point de fuite. On est extérieur à ça. En même temps, ça crée une objectivité. En même temps, ça crée la perspective. Mm-hmm. C'est-à-dire la possibilité du point de vue. Mm-hmm. Donc on voit bien hein, que d'une certaine manière, et puis arrivé de la télé, même chose, hein, la télé, ouais. Si on ne voit pas les caméras, ce n'est pas de la télé, c'est du cinéma. Il faut qu'on voit le réel en train de se faire. Tiens. Donc on voit bien que finalement, avec ces, de mon point de vue, à ce que vous dites, avec, ces, avec le smartphone, eh ben c'est un prolongement. Alors vous avez raison, ce qu'il faut questionner de mon point de vue, et ça a été dit, c'est la démission. Pourquoi dans le fond les parents démissionnent et pourquoi ils donnent le smartphone pour être tranquille? Mais c'est qu'aussi on est dans une société de famille nucléaire, de disparition du lien social. Et les parents, ils ne savent pas s'occuper des enfants, c'est tranquille. Mais on voit bien. Mais alors, en même temps, bon, vous avez parlé aussi, je reprendrai avec Michel Serre, hein, sur Petite Poussette.
Ouais.
Hein, qu'est-ce qu'il dit, finalement? Ok, cette petite... Eh bien, finalement, elle a accès à plein de choses. L'important, c'est travailler sur le discernement. Et que ça va être le rôle hein, à l'école. À l'école, elle ne va pas écouter le prof, puisque ce qu'elle peut le trouver. En revanche, ce qu'elle trouve sur le smartphone, ça l'intéresse de le confronter avec l'enseignant pour essayer de créer un savoir partagé, et qui en même temps prend une certaine, j'allais dire, valeur. Et donc moi, je pense que, et c'est ce que vous avez dit dans votre... Vous avez dans le fond montré la catastrophe vers laquelle on allait. Hein, le fait qu'on était soi-même d'une certaine manière... On participait au propre contrôle à travers les données qu'on donne, etc. C'est Big Brother, c'est passé, c'est nous-mêmes qui créons à la surveillance sur nous-mêmes. Mais en même temps, je vais dire, c'est l'urgence pour le coup hein, de le travailler et certainement dans les apprentissages et la formation. Et je vois bien, parce qu'avec le chat GPT, ok, ils font leur truc. Ok, mais après, on peut en discuter. Comment on passe de ce qui a été donné comme étant possible avec le réel que l'enseignant ou les autres peuvent apporter. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses et le regard dont vous parlez. Et
oui,
à mon avis, c'est ça qui est urgent. Et je pense que dans certains lycées expérimentaux, je pense que Bente-la-Jolie l'avait au départ, je ne sais pas s'il l'a maintenu, c'était que finalement, un des axes principaux du collège, c'était de travailler le discernement. Vous m'entendez mieux comme ça ? De travailler le discernement. C'est-à-dire, dans le fond, comment on crée de la connaissance à partir du fratras hein, des fake news et de ce qu'on entend. Et comment, d'une certaine manière, produisant cette connaissance, on quitte un peu l'hypertrophie du moi hein, que crée le smartphone à travers les likes, etc., pour que, d'une certaine manière, on approche le réel. Enfin, moi, voilà, il y a quelque chose, là, pour le coup, qui est fondamental, et c'est bien, moi, je vous remercie de ce que vous avez dit avant, pour bien montrer, dans le fond, dans quelle situation on se trouvait, et en partie démunis.
Oui, bien entendu, on est d'accord. Notre responsabilité d'enseignant, de formateur est immensément accrue dans le monde d'aujourd'hui. En même temps, je pense qu'on est beaucoup démunis quand même. Vous savez que la manière dont on a voulu introduire les outils numériques dans les collèges, notamment pour rompre cette fracture numérique que dénonçaient un certain nombre de gens, a été absolument catastrophique. Parce que le fantasme, c'est de croire que les enfants vont suivre l'enseignant, vont être vraiment des bons élèves. Pas du tout. Ils ont foncé sur Internet, ils ont foncé sur les réseaux sociaux, et les ministres sont revenus là-dessus en se disant faisons quand même attention, c'est une arme à double tranchant en quelque sorte, même en dépit de l'accompagnement des enseignants, des formateurs et autres. Et moi, je suis assez critique à l'égard de l'introduction des téléphones portables ou autres dans les collèges, dans les lycées, comme matière d'enseignement. Mais en même temps, je ne sais pas quoi proposer d'autre. Hein. Je sais bien.
Merci. Donc, je vais aller très vite. Voilà. Donc, je vais aller très vite, hein, vraiment, parce que c'est un thème qui est très intéressant. Et c'est vrai que nous encadrons beaucoup des enfants, nous formons les enfants et tout. Et ils sont maintenant dans une bulle, comme vous l'avez si bien démontré, avec même les pédopsychiatres qui sont venus ici ajouter pour montrer les inconvénients de l'utilisation des écrans. Mais ma question, c'est vrai que ces écrans-là, hein, même les adultes, les jeunes, les utilisent même pour des réseaux qui peuvent être criminels, même criminels. Tout est possible.
Tout est possible. Hein?
Certains envisagent. On ne peut pas savoir comment les enfants communiquent, avec qui les enfants et les jeunes même communiquent. Ils sont tous branchés sur leur smartphone. Moi-même, personnellement, quand je suis venu avant-hier, mes petits-enfants ne sont même pas levés pour me saluer parce qu'ils étaient tous collés à leur smartphone. C'est après que je dis, mais mamie est là, il faut saluer mamie au moins. Voilà, donc ça montre qu'il y a des inconvénients. Et au niveau des écoles, en même temps, nous sommes dans le numérique. On nous encourage à utiliser le numérique. Il y a l'intelligence artificielle, il y a plein de choses aussi. Il y a aussi des avantages de l'utilisation de ces outils. Maintenant, ma question, c'était, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que je vous ai écouté et c'est très intéressant. Mais il n'y a pas encore pour moi une proposition concrète pour que je puisse savoir comment faire avec les enfants, avec les jeunes aussi. Et combien d'heures faut-il l'utiliser? Combien de temps? Comment l'utiliser? À quelle heure? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants... Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole. C'était pour ça, hein? Vraiment une petite question.
Merci. Je suis sûr qu'on ait la recette.
Non, mais, merci de votre question, mais je crois justement que la suite du colloque va revenir inlassablement sur ces sujets, parce que c'est le grand défi auquel on est confronté dans le monde d'aujourd'hui en tant qu'enseignant, formateur ou parent. Merci.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je rappelle que votre livre est à la librairie. Notre amie Féline et notre amie Ah oui.